Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles à 2 Corinthiens 13 au verset 9. C'est notre verset de référence. 2 Corinthiens 13 au verset 9. Nous sommes toujours sur notre série intitulée « La maturité spirituelle ». Que quelqu'un dise avec moi « La maturité spirituelle ». La maturité spirituelle est extrêmement importante. C'est important de grandir. La maturité spirituelle. Et voici notre passage de base, notre passage de référence. Nous avons déjà dit beaucoup de choses sur ce sujet, mais on va le relire. 2 Corinthiens 13 au verset 9. Tout le monde y est ? Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Le mot perfectionnement, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un mot grec que l'on prononce katartizo. Est-ce qu'on peut dire avec moi katartizo? Katartizo en grec veut simplement dire transformation. Transformation. C'est pour cela que Paul en rajoute dans Romains au chapitre 12 au verset 1, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Katartizo, dis avec moi encore katartizo. Qui veut dire perfectionnement. 2 Corinthiens 13, 9, dans la version parole vivante, c'est le même verset, mais traduit d'une autre manière. Il dit, nous sommes contents de paraître faibles pourvu que vous, vous soyez réellement forts. C'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, que vous trouviez le chemin de la véritable maturité chrétienne et que vous y marchiez de progrès en progrès. Amen. Donc on a dit vraiment beaucoup de choses sur le sujet. La maturité spirituelle, c'est ce à quoi Dieu s'attend de ta part. Dieu veut que tu grandisses. Toutes les paraboles de Jésus qu'il a racontées, dans lesquelles il se mettait en colère, c'était toujours des paraboles sur la maturité spirituelle. Luc 13, verset 20, parabole du vigneron et de sa vigne. Je viens depuis 3 ans chercher du fruit auprès de cette vigne et je n'en trouve pas. Coupe-le et jette-le au feu. On juge un arbre à ses fruits. Mais si l'arbre ne porte pas de fruits, c'est très mauvais. Jésus-Christ eut faim, livre de Marc. Il eut faim et il vint chercher du fruit auprès du figuier. Il n'en trouva pas. Regardez la réaction de Jésus. Que plus jamais de fruits ne sortent de toi. Il y en a qui peuvent expérimenter ça avec Dieu. Il y en a, Dieu peut les appeler à grandir. Dieu peut les rappeler à l'ordre. Il rappelle, il rappelle, il rappelle, il rappelle. La personne ne revient toujours pas à l'ordre. Elle reste toujours dans son péché. Jusqu'au jour où Dieu dit, bon, que plus jamais le fruit ne sorte de toi. C'est-à-dire, tu vas continuer ta vie chrétienne, mais tu ne grandiras plus. C'est-à-dire, c'est comme si on dirait, Dieu jette une malédiction sur ta vie. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver, quand Dieu te rejette. Que plus jamais le fruit ne sorte de toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y a bien une chose que Dieu veut voir chez chacun de ses enfants, c'est qu'ils grandissent. Dis avec moi la maturité spirituelle. Et dans notre pays, dans notre monde là, la maturité, ou encore la majorité, c'est à l'âge de 18 ans dans certains pays. Dans d'autres pays, c'est à l'âge de 21 ans. Chez nous au Gabon, c'est 21 ans je crois, non? C'est à 21 ans qu'on dit que tu es censé être mature. Dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Dans le royaume de Dieu, la limite, le seuil à atteindre pour parvenir à la maturité spirituelle, pour parvenir à la majorité, soi-disant, c'est 3 ans. C'est pour ça qu'il dit dans Luc 13, au verset 20, Voici 3 ans que je viens chercher du fruit dans cette vigne, je n'en trouve pas. Il y en a qui sont dans le Seigneur depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais on ne voit aucun signe de maturité. Comment quelqu'un peut fréquenter une église pendant 10 ans et quand on lui demande de faire ne serait-ce qu'une heure de prière, il ne peut même pas. J'en ai vu, ils étaient dans l'église depuis longtemps, mais tenir ne serait-ce que 5 minutes à prier, à part dire « Papa, je te bénis, papa, je te bénis », ce n'est pas dire autre chose. Ça, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est dans l'église depuis des années, mais pour lire la Bible le matin, c'est compliqué. Il y a un problème. La personne est dans le Seigneur, mais la personne n'a pas grandi. Si tu as un enfant demain, les mois passent, les années passent, et tu te rends compte que l'enfant ne grandit pas. Au bout d'un moment, vous allez vous poser des questions. Il y a un problème. Et il y a une maladie comme ça qui existe, la maladie des os, qui fait que la personne ne pousse pas. La personne ne grandit pas. Et ça, c'est une maladie grave. Donc, quand Dieu voit quelqu'un qui est en Christ, en Jésus, mais qui ne pousse pas, qui ne grandit pas, Dieu dit, la personne est malade. Parce que naturellement, on grandit. Grandir, ça, on ne force pas. Tu ne forces pas pour grandir. Est-ce que tu forces pour grandir? Est-ce que tu fais grandissant? Non, on ne force pas pour grandir. On grandit naturellement. Sans forcer. Et c'est pareil dans le Seigneur. Spirituellement, tu dois grandir. Quand tu es né de nouveau, réellement né de nouveau, converti à Christ, né du Saint-Esprit, naturellement, il y a des choses qui t'attirent. La méditation de la parole de Dieu, la vie d'église, ce genre de... c'est naturel en fait. C'est pour ça que moi, quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il est en Christ, mais il n'aime pas aller à l'église, il n'aime pas lire la Bible, il n'aime pas prier, je me dis, tu es vraiment né de nouveau toi. Toi, tu n'es pas né de nouveau. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau en Jésus-Christ, il y a une transformation, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il y a une vraie transformation. La personne, tout d'un coup, elle devient passionnée de Jésus. Il y a une passion, un feu qui naît dans le cœur de la personne qu'on ne peut pas décrire. La personne n'aimait pas, ne connaissait pas la vie d'église. Et puis, du jour au lendemain, la personne maintenant aime aller à l'église. Et chaque fois qu'elle vient à l'église, elle aime ça. Elle aime les moments de louange, les moments d'adoration, les moments passés avec les frères et les sœurs, les moments de parole. Elle aime ça. Quand tu rencontres des chrétiens qui sont ensemble, s'il y a bien un sujet qui doit les passionner, c'est Jésus, entre eux. Mais si tu rencontres un groupe de chrétiens, ils sont toujours en train de faire le Congo, ça, des trucs bizarres, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a une passion en nous qui naît quand on est de nouveau. Et on grandit en Christ naturellement. Amen. Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on grandisse avec moi la maturité spirituelle. Donc, on a dit vraiment beaucoup de choses. On a cherché d'abord à comprendre ce qu'était la maturité spirituelle. Et on en est arrivé à un point qu'on a entamé la semaine dernière et qu'on va clôturer aujourd'hui, que j'ai appelé l'engagement. Dis avec moi l'engagement. La maturité spirituelle commence d'abord par l'engagement. Il y a une phrase que j'aime dire souvent qui est « Le succès dans la vie part d'une décision. » De même, la réussite avec Dieu dans la vie part de l'engagement. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mis d'accord au préalable? Non. On se met d'abord d'accord et ensuite on chemine ensemble. Et Dieu, avant de commencer à cheminer avec toi, il veut s'assurer qu'on est d'accord. Tu es d'accord avec lui. Et si tu es d'accord avec la parole de Dieu, vous pouvez marcher ensemble. Et Dieu veut ton engagement. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'il s'engage à me suivre. Qui s'engage. Mais quand tu vois que ta priorité dans ta vie, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, pose-toi des questions par rapport à ton engagement. Pose-toi des questions par rapport à ton amour pour le Seigneur. Parce que quand on aime vraiment le Seigneur et qu'on s'est engagé à le suivre, il passe en premier. Dis avec moi le premier. Il passe en premier. Dieu ne veut pas la deuxième place. Il n'y a pas de deuxième place dans la relation qu'on a avec Dieu. Dieu, c'est soit il a la première place, soit il n'en a pas du tout. Donc, examine tes priorités. Examinons nos priorités. Dieu est toujours en premier dans tout ce qu'on fait. Même dans notre couple, même ton conjoint passe après Dieu. Enfin, est censé passer après Dieu. Si ton conjoint, si la personne avec qui tu es, passe avant Dieu, sache que Dieu, il y a des portes qu'il n'ouvrira jamais dans ta vie. parce qu'il n'est pas premier. Dieu est roi. Dis avec moi, Dieu est roi. Dieu est roi. Quand on présente Dieu dans la Bible, on le présente comme un roi. Il est roi. Il est roi. Laissez entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, fort et puissant. Psaume 15. Il est roi. Et un roi, il est le premier. Tout lui appartient. Un roi, il est le seigneur. Tu sais ce que veut dire le mot seigneur? Quand tu vois le mot seigneur, seigneur, la Bible, seigneur, seigneur, seigneur. Tu vas chercher ça, tu vas chercher la signification de ce mot dans la Bible, Seigneur. Quand tu vois Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, c'est un mot hébreu que l'on prononce Kurios, K-U-R-I-O-S, Kurios. Et tu sais ce que veut dire Kurios? Kurios veut dire le propriétaire. Le propriétaire, c'est-à-dire celui à qui on appartient. Et Dieu, quand il dit que tu es ma propriété, c'est-à-dire tu ne décides pas ta vie, tu ne décides pas. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 6 que vous ne vous appartenez pas à vous-même, votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez pas. Mais les gens qui ont des problèmes avec Dieu, ce sont les gens qui refusent de se laisser appartenir par Dieu. Et il y a un conflit. Amen. Mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on réussisse, qu'on s'épanouisse. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut qu'on s'épanouisse en Christ. Et dans notre marche avec Dieu, la semaine dernière, on a entamé ce sujet, 10 bénéfices d'un engagement sincère avec Dieu. Et on a dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas trop y revenir pour pouvoir avoir le temps de terminer. Et on a pris comme exemple le jeune homme riche. Vous vous rappelez? Le jeune homme riche qui voulait suivre Jésus, mais qui a préféré choisir sa richesse que de suivre Jésus. Et ce jeune homme, j'ai dit que ce jeune homme, comment dire, ce jeune homme s'était approché de Jésus en mettant en avant ce qu'on appelle la loi. Lorsqu'il vint demander à Jésus, « Seigneur, que dois-je faire pour être parfait ?» Jésus-Christ lui répond, « Mais tu connais les commandements, tu ne pécheras, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Alors, Seigneur, j'ai fait toutes ces choses. Ah, alors il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et j'ai dit ici que s'approcher de Dieu, s'approcher de Jésus, c'est par la foi. Dis avec moi, par la foi. On ne s'approche pas de Dieu en pensant qu'on peut faire des choses. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit pour plaire à Dieu. Il n'y a personne qui peut plaire à Dieu. Personne. Il n'y a que Jésus qui a réussi à plaire à Dieu. Et quand on est en Christ, la Bible dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand Dieu jette les regards sur toi, il ne te voit pas, il voit Christ. Amen. Il voit Christ. Il ne faut pas qu'il voit autre chose, parce que Dieu est saint. S'il voit autre chose, il frappe. Dieu voit Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens 6 dit, chacun d'entre nous, nous sommes des membres du corps de Christ. Quel que soit ton niveau dans l'église, quel que soit ton niveau dans l'église, chacun d'entre nous, on a une place dans le corps. Même le membre le plus insignifiant, même le membre le plus petit, à son importance. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des parties de ton corps, tu n'y prêtes pas attention, très souvent, mais le jour où la partie est malade, tu te rends compte qu'elle est là. Si je prends les 5 doigts de la main, quel est le doigt le plus important d'après vous? Le doigt le plus important de la main, c'est celui-là. On a toujours l'impression que c'est celui-là, celui-là, parce que quand on parle d'autre, tu vas voir ça. Tu te penses que c'est celui-là. Hein? Si on te coupe le petit doigt, ta main peut toujours fonctionner. Tu peux toujours attraper. Si on te coupe celui-là, pareil, celui-là, pareil, celui-là, pareil. Mais si on te coupe le pouce, tu ne peux plus rien faire avec ta main. Autant te couper les 5 doigts. Parce que si on te coupe le pouce, tu vas attraper les choses comment? Tu ne peux pas. C'est le pouce qui permet de faire fonctionner la main. Pourtant, on ne lui accorde pas beaucoup de valeur. Hein? Si par exemple, une fois par exemple, mon petit frère, il aimait se ronger la peau au-dessus des ongles. Il était toujours comme ça. Il aimait se ronger ça. Ça ne lui disait rien. Jusqu'au jour où il s'est chopé un panari. Le panari, c'est quand ça s'infecte. Et son pouce avait gonflé. Et je voyais comment il se tortillait dans le lit pendant des jours. Parce que ça lui faisait très mal. J'ai dit, ah, tu vois, tu te rends compte à quel point maintenant c'est important. Amen. Donc, chacun d'entre nous, on a notre place dans le corps de Christ. Chacun d'entre nous. Et le jeune homme en question, avait raté tous les tests. Il s'était approché de Dieu avec la loi, alors qu'on s'approche de Dieu avec la foi. Chaque fois que tu t'approches de Dieu avec la loi, comme Jésus-Christ lui a dit, il te manquera toujours quelque chose. Parce que la loi ne peut pas te rendre parfait. C'est la foi qui nous rend parfait. Amen. C'est la foi qui nous rend parfait. Et le premier test, parce que j'en ai énuméré 7. Le premier test que l'on doit passer pour s'approcher de Jésus, c'est le test de la foi. Dis avec moi le test de la foi. Le test de la foi, c'est ton niveau de foi ou encore de confiance à Dieu. Le deuxième test dont j'ai parlé, c'était le test du discernement de la voix de Dieu. Quand Jésus-Christ lui dit « Suis-moi », il n'a pas eu la capacité de discerner que là, c'était la voix qu'il appelait pour entrer dans sa destinée. Il avait raté aussi ce test. Le troisième test, c'était le test de l'obéissance, obéir à la parole de Dieu. Le quatrième test, c'était le test de la fidélité. Le cinquième test, c'était le test de la consécration. Le sixième, celui de la croissance spirituelle. Et le septième, celui du sacrifice. Donc, on a parlé de ça la semaine dernière. Et je vous ai montré à combien c'était important de s'engager sincèrement quand on veut suivre le Seigneur. Ce n'est pas juste venir à l'église et puis entrer par la fenêtre. On n'entre pas à l'église par la fenêtre, on entre par la grande porte qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église pour d'autres raisons. Il y en a qui viennent par suivisme, il y en a qui viennent parce qu'ils cherchent quelqu'un. Il y en a qui viennent parce qu'ils cherchent quelqu'un. Oui, il y en a qui viennent parce qu'ils cherchent leur côte. Hein? Parfois, c'est un bon moyen d'attraper quelqu'un. Dieu, parfois, c'est un pêcheur, il jette l'hameçon. Allez, viens, suis. Tu suis la femme, tu suis la veuve. Et puis, arrivé à l'église, on t'attrape. Hein? Dieu, parfois, fonctionne comme ça. Il a souvent le sens de l'humour. 10 bénéfices. Le premier bénéfice dont on a parlé, quand on s'engage à suivre le Seigneur, quand on s'engage à marcher avec le Seigneur, il y a des choses qui se produisent dans notre vie. Le premier bénéfice dont on a parlé, le premier bénéfice de l'engagement à la maturité spirituelle, c'est la facilité ou encore la capacité à servir les autres naturellement. Tu découvres en toi un désir maintenant de servir l'autre. Ce qu'on ne trouve pas quand on est dans le monde. Quand on est dans le monde, tout le monde est égoïste. Chacun pense à lui. Mais quelqu'un qui donne vraiment sa vie à Jésus, naturellement trouve en lui un désir de toujours servir les autres. Parce que c'est une loi naturelle dans le royaume de servir les autres. Amen. Le deuxième bénéfice dont on a parlé, c'était la capacité à mettre en priorité ton amour pour Jésus et pour son royaume. Quand tu es dans le monde, le royaume de Dieu ne te dit rien. Mais quand tu t'engages sincèrement, s'il y a bien une chose qui naît dans ton cœur, c'est cette passion-là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, c'était le deuxième. Le troisième bénéfice, celui par lequel nous avons terminé, c'était que l'engagement, le véritable engagement, te permet de devenir un modèle pour les autres. Parce que quand tu décides de marcher avec le Seigneur, tu commences maintenant à faire attention à ta vie. Tu travailles ta vie. Tu ne pèches plus. Tu te sanctifies, tu te mets à part. Et en faisant tout cela, tu deviens un modèle pour les personnes qui t'entourent. Tu commences à inspirer les autres. Tu commences à refléter le caractère de Christ devant les autres. Et ton témoignage leur donne envie de venir. Amen. Et on va continuer. Le quatrième bénéfice, le vrai engagement, le véritable engagement avec le Seigneur, Quatrièmement, te permet de construire de meilleures relations autour de toi et d'avoir un meilleur impact dans la vie des gens. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour où tu décides de marcher avec le Seigneur, tu vas te rendre compte que toutes les relations que tu vas commencer à bâtir autour de toi n'auront qu'un seul objectif, amener les gens à Christ. Amen. Amener les gens à Christ. C'est ton seul objectif. Quelles que soient les relations que tu as avec les gens, si c'est quelqu'un qui est déjà dans le Seigneur, alors ton objectif sera simplement d'améliorer ta relation avec Dieu au travers de cette relation. Et que cette relation avec cette personne te permette d'aller vers ta destinée. Mais si c'est un non-croyant, si tu connais un non-croyant ou des non-croyants, Dieu ne te demande pas de te séparer d'eux. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de faire en sorte que votre relation puisse amener ces personnes à découvrir Jésus. C'est ça le but. Donc, trouve tout ce que tu veux. Il faut qu'ils entendent parler de Jésus. Il ne faut pas qu'ils aillent devant le trône demain et qu'ils disent, ah, nous, on n'a jamais entendu parler de Dieu. Ah, Dieu va dire, mais Gabriel, mais il n'y avait pas telle personne à côté de lui. Il ne lui a jamais parlé de... Ah non, il ne m'a jamais parlé de Jésus. Hein. Là, Dieu va te demander des comptes. Quand tu es au milieu des non-croyants, ta vie, ton témoignage, bien entendu, va refléter Christ. Mais tu dois trouver tous les moyens pour qu'au travers de la relation que tu as avec ces personnes, qu'ils entendent parler de Jésus. Si c'est quelqu'un à qui tu peux parler de manière radicale, donne ta vie à Jésus, mon frère. Il n'y a pas de plus belle chose que de donner sa vie à Jésus. Mais si la personne refuse enfin de parler de Jésus, alors tu dois trouver un moyen pour que cette personne, tu peux l'inviter à l'église, tu peux l'inviter à un concert chrétien, un concert gospel, tu peux lui offrir un livre, enfin, tout ce que tu veux, mais il faut qu'elle entende parler de Jésus au travers de toi. Vous me suivez? La Bible nous dit, dans Matthieu 5, si je ne me trompe pas, Matthieu 5 au verset 13, j'espère qu'on voit, Jésus-Christ dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Dis avec moi, « Je suis la lumière du monde. »
« Je suis la lumière du monde. »
Oui. Dis encore, « Je suis la lumière du monde. » «
Je suis la lumière du monde. »
Dis-le encore, « Je suis la lumière du monde. » «
Je suis la lumière du monde. »
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu peux faire tout pour te cacher. Et les gens verront toujours que tu es en Jésus-Christ. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Un vrai disciple de Jésus-Christ, un vrai chrétien, engagé et quelqu'un qui marche dans l'amour et qui brille par ses œuvres devant les autres. C'est quelqu'un, quelles que soient les relations qu'il a avec les autres, son seul et unique objectif, c'est que Christ soit révélé. Vous me suivez? Amen. C'est extrêmement important. Et ton objectif, à long terme, c'est de faire en sorte que ces personnes deviennent des disciples. Parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et les premières personnes auprès de qui tu dois témoigner de Christ, que ce soit par la parole ou par ton témoignage, ce sont les gens qui sont le plus proches de toi, c'est-à-dire ta famille. Est-ce qu'on peut dire avec moi la famille? La famille, c'est souvent les personnes les plus réfractaires. Vous savez pourquoi? Parce que la famille, ils pensent te connaître. Ils ont grandi avec toi là, ils te voient tous les jours, mais ils ne comprennent pas le mystère de la nouvelle naissance qui dit que lorsqu'on est de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, il y a tous ceux qui ont cru, Jean 1, 12, voici, à tous ceux qui ont cru, ils ont reçu le privilège, encore le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, ils ne sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de l'homme. Ils sont nés du Saint-Esprit. Donc, chaque fois que quelqu'un de ta famille te voit et puis dit, « Oh, on se connaît, je t'ai vu là. » Tu ne me connais pas. En apparence, tu penses que tu me connais. Mais celui qui est à l'intérieur, là, c'est une autre personne. C'est une autre personne. C'est ça la puissance de la nouvelle naissance. Amen. Cinquième bénéfice, lorsqu'on s'engage sincèrement avec le Seigneur, c'est que l'engagement te permet d'avoir une meilleure intimité avec Dieu, le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, si vous vous rappelez, c'était le troisième pilier du processus de transformation du disciple qu'on a appelé la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas développer une communion profonde avec Dieu, avec le Saint-Esprit, si tu ne t'es pas sincèrement engagé envers lui. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a un niveau de révélation dans la communion avec Dieu qu'on ne peut atteindre que si on est sincère. Vous vous rappelez, j'avais parlé de ça, la sincérité. Il faut être sincère, sincère. Quand quelqu'un est sincère, Dieu voit. Et quand quelqu'un s'engage sincèrement à suivre le Seigneur, c'est pour ça que le baptême est très important. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand les gens te disent, « Oui, on croit. » Non, non. Montre-nous que tu crois. Comment ? Baptise-toi. Oh, est-ce qu'on a besoin de faire ça ? Non, baptise-toi. Baptise-toi. La semaine dernière, mon épouse et moi, on est rentrés après le culte, je crois que c'était il y a deux semaines, on est rentrés après le culte, et puis j'ai allumé la télévision, et puis je me suis mis à regarder un film. Ce film, c'était des prisonniers, c'était un film noir américain, c'était des prisonniers, et pour leur peine, en fait, l'église, en fait, avait un partenariat avec la prison. Et pour leur permettre de sortir, le chef de la prison ne voulait pas que les prisonniers sortent, parce qu'ils étaient condamnés pour des années, tout ça. Donc le pasteur, en fait, dit au chef de la prison, « Bon, ils ne vont peut-être pas sortir, mais permets-leur de venir à l'église. » Donc le chef de la prison dit, « Ok. » Donc chaque semaine, ils vont aller à l'église. Et ensuite, le pasteur arrive à obtenir l'accord du chef de la prison en disant que, en leur permettant d'entrer dans la chorale. Donc les gars, chaque semaine maintenant, ils sortent de leur prison. Et puis, ils vont dans l'église et ils commencent les répétitions avec la chorale. Donc, c'était marrant. Le film était un film très, très marrant. Les films américains marrants, là. Et puis, tu vois, les prisonniers, ils sont les joues durs et tout. Et puis, tu vois, les autres jeunes de la chorale, les autres filles de la chorale qui chantent, qui dansent. Et puis, eux, ils ne veulent pas chanter. Ils disent, attends, on n'est pas sortis de nos prisons pour venir faire ça, quand même. Attends, laisse tomber. Les gars, ils n'étaient pas nés de nouveau. Tu sais, ils ne connaissaient pas, ils avaient des tresses, tout ça. Et puis là, il y a une maman, parce que les gars, finalement, le pasteur leur les force à chanter. Donc les gars, ils boudent, mais les gars, ils se mettent à chanter et tout. Oh, ah, putain. Ils se sont fâchés et tout. Et là, il y a une maman dans l'église qui arrive et elle se fâche avec le pasteur. Et elle dit au pasteur, mais ils n'ont pas le droit de chanter comme ça dans l'église. Pourquoi tu les fais chanter comme ça? Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ça ne glorifie pas le Seigneur. S'ils veulent vraiment chanter dans la chorale de l'église, ces prisonniers qui ont tué des gens là, ils doivent donner leur vie à Jésus et ils se font baptiser. Donc quand elle dit ça, il y en a un qui fait jamais, moi me faire baptiser, jamais. Et on lui dit, bon, tu choisis, soit tu te fais baptiser, soit tu retournes en prison. Oh, si ses potes le regardent, tu peux retourner en prison. Finalement, ils sortent tous avec le pasteur les emmène dans une rivière et puis il dit, bon, baptisez-vous. Ils disent non. Et puis l'autre dit, est-ce que tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire là? On va se faire baptiser. Et tu les vois, finalement, ils se font baptiser. Et quand ils sont baptisés, c'est comme si ils sont transformés, ils prennent goût maintenant. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 27 au verset 4, « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui. » pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Quand tu deviens disciple de Jésus, quand tu t'engages sincèrement, il y a une passion pour, ou encore un amour pour le Saint-Esprit qui naît en nous, qu'on appelle l'adoration. Dis avec moi l'adoration. L'adoration, c'est la clé de tout. L'adoration, c'est l'intimité. L'adoration, c'est le meilleur moyen de connaître Dieu. Les gens qui ont une intimité avec Dieu profonde sont ceux qui connaissent Dieu. Ce sont ceux-là que la Bible appelle les amis de Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est dans le psaume 15, verset 24. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, ceux qui le connaissent. Et tu verras, le jour où tu vas choisir de t'engager sincèrement avec Dieu, tu vas voir tout d'un coup comment ta relation avec Dieu va passer à une autre dimension. Il y a une passion qui va naître dans ton cœur, qui va totalement te transformer. Et c'est ça que Dieu recherche. Dieu ne recherche pas juste des disciples. Dieu recherche de vrais adorateurs. De vrais adorateurs. Jean 4, verset 23. « Car ce que le Père demande, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. » Amen. Et l'adoration est bien plus qu'une passion pour le vrai disciple de Christ, celui qui s'est engagé. C'est sa vie. Dis avec moi l'adoration. L'adoration, ce n'est pas juste chanter des chansons. L'adoration, comme on l'a fait tout à l'heure. L'adoration, c'est faire en sorte que sa vie entière soit une chanson pour Dieu, que Dieu prend plaisir à écouter. Quand Dieu te regarde, il est là, il sourit. Et il dit, « Ah, celui-là, il me blase. Sa manière d'être, celle-là, quand je la vois, elle me blase. Elle est carrée, elle m'aime, elle prie, elle sert les autres, elle sert le Seigneur. Comme Dorcas. » Celle qui fit les bonnes œuvres que Jésus a, que Paul a ressuscité. Elle recommence à regarder. Que Paul a ressuscité. Les gens ont supplié Paul pour que Dorcas, c'est Pierre, je crois, c'est Pierre plutôt, qui a ressuscité Dorcas. Parce qu'elle, par ses œuvres, les gens disaient, c'est pas possible, la femme-là, elle ne mérite pas de mourir. Tu ne sais pas que ton engagement et ton service pour le Seigneur peut retarder ta mort sur la terre. Hé! Tu ne sais pas ça? David pêche. Dieu veut le frapper, mais Dieu ne le frappe pas. Dieu préfère frapper 20 000 personnes dans le village que de le frapper lui. Et David dit, mais Seigneur, ce ne sont que des brebis. Pourquoi c'est elle que tu frappes? C'est moi qui ai péché. Dieu dit, mais si je te tue là, qui va me faire ce que tu me fais là quand on est dans l'intimité? Qui va me faire ça? Il n'y a que toi qui me fais ça, David. Donc, tu vas mourir, tu vas vieillir, tu vas être rassasié de longs jours. Et après, tu viendras me rejoindre. Mais sur terre là, ce que tu peux me faire sur terre là, tu ne peux plus faire ça au ciel. Au ciel, on passe à une autre dimension, c'est autre chose. On est comme les anges. Ce n'est pas pareil. Mais sur terre, là, c'est puissant l'adoration parce que tu as le choix. Au ciel, tu n'as pas le choix. Alors, je vous apprends une chose. Au ciel, on n'a pas le choix. Au ciel, on adore, on se prosterne et on sert Dieu. Si tu n'es pas au ciel, c'est que tu es de l'autre côté. Au nom de Jésus, tu ne seras pas de l'autre côté. Mais sur terre, on a le choix. Tu as le choix de te lever le matin, venir à l'église, ou tu as le choix de dormir. C'est ton choix. C'est pour ça que les anges nous envient. Les anges nous envient. Tu as le choix de dire, ah, basta, je ne suis pas Jésus, moi. Je fais ce que je veux. Tu as le choix de sortir avec une fille si tu veux. Attends, dis-moi, la dernière fois que tu as embrassé une fille, Dieu t'a frappé. Dieu ne t'a pas frappé. Tu n'étais pas marié avec elle, tu l'as embrassé quand même. Dieu t'a frappé. Dieu ne t'a pas frappé. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est fort, hein? C'est très fort. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu y frappait. Mais en Jésus-Christ, Dieu ne frappe plus. C'est pour ça que les gens pensent que Dieu est cool. Dieu est cool. Mais il n'est pas cool, hein? Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Il t'attend au tournant, mon ami. Il t'attend. Gloire à Dieu. Amen. Sixième bénéfice. On va aller vite parce que j'ai envie de finir aujourd'hui. Sixième bénéfice d'un véritable engagement et sincère d'un disciple, c'est que le vrai engagement te propulse sur le chemin de ta destinée en Christ. Dis avec moi ta destinée. Voici ce que Paul nous dit. J'aime beaucoup ce passage. Dans Philippiens, chapitre 3, au verset 13 à 16. Écoutons bien, c'est un passage qui est très important en ce qui concerne la maturité spirituelle et l'engagement. « Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera sur le sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Amen. Je vais relire la même chose, mais je vais la relire dans une autre version. La version parole vivante qui est encore plus explicite pour que vous compreniez bien mon point. Paul nous dit à partir du verset 15, je vais lire à partir du verset 15, « Nous tous qui tendons à la perfection, katartizo, nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint à une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. Si toutefois, sur un point quelconque, vous avez encore une opinion différente, Dieu vous éclairera aussi là-dessus et vous conduira dans toute la vérité. Verset 16. Seulement, soyons conséquents avec les convictions que nous partageons dès à présent. Que les vérités acquises dirigent notre marche et sur tous les points où nous sommes d'accord, avançons ensemble. Amen. Dis avec moi la maturité spirituelle. Nous tous qui tendons vers la perfection, tendre, toujours chercher à aller de l'avant, non pas en arrière. Non pas en arrière. Il y a un chant là que j'ai écouté il y a quelques jours, là, j'ai juste aimé juste la partie de la fin. Laissez-nous avancer, avancer. Je ne sais plus ce qu'il chante ça. J'ai bien aimé la phrase, laissez-nous avancer. Oui, laissez-nous avancer. Et ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est ça. C'est qu'au moment où on s'engage, là, on reste concentré sur l'essentiel, sur l'objectif, sur le but dont parle Paul. L'engagement te propulse sur le chemin de ta destinée. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée tant que tu ne décides pas d'y entrer. Chacun d'entre nous, nous avons une destinée. Chacun d'entre nous, Dieu a un plan pour nous. Tous. Dieu a un plan pour chacun. Mais pour que ce plan s'accomplisse, il faut que tu décides de t'engager sincèrement à ne pas lâcher la main de Dieu. Et à chercher la face de Dieu, à travailler, à prendre soin de ta vie et à travailler pour libérer ton potentiel en Christ. Amen. Parce que le potentiel, les aptitudes, les dons, les talents que nous avons en chacun d'entre nous, nous devons les libérer. Nous vivons sur terre avec le potentiel que Dieu a déposé en nous, mais nous devons mourir après l'avoir libéré. C'est une tragédie de mourir avec le potentiel en nous sans l'avoir libéré. Parce que tous les dons, les qualités, les talents que Dieu a déposés en nous, c'est pour faire des choses. C'est pour bâtir des choses, bâtir des entreprises, bâtir un label de production, écrire des livres, faire plein de choses. Mais imagine, tu vis toute une vie. 70 ans sonnent là, ding, tu n'as rien fait. Toujours dans ton administration, tu n'as rien fait. Alors que les livres sont en train de bouillir en toi. Il y a des chansons en toi qui doivent être écrites. Il y a des maisons qui doivent être construites. Des restaurants qui doivent remplir tout le pays. Et tout ça, le temps passe, il n'y a rien qui sort. Dieu regarde et Dieu dit, oh, est-ce que tu te... C'est pour ça que je dis toujours que le potentiel est ce qui a changé ma vie. Le jour où j'ai compris qu'un homme est comme Dieu, la capacité à créer, à visualiser, à imaginer des choses et à les matérialiser. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc chacun d'entre nous, nous avons des choses en nous que nous devons libérer. Et le jour où tu décides de suivre le Seigneur, de t'engager avec lui, Dieu va te révéler qui il est. D'accord? Mais Dieu va aussi te révéler qui tu es. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, dans Jérémie 1, ne dis pas que tu es un enfant. Avant que tu n'aies été formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète. Tu es un prophète? Tu n'as que 9 ans, mais tu penses que tu es qui? Moi, je ne te vois pas enfant. Tu es un prophète pour cette nation. Ah. Donc, quand tu regardes dans la glace, là, ce n'est pas la vérité que tu vois. C'est le reflet de la réalité, de ce que tu es aujourd'hui. Mais ce que Dieu voit quand il te regarde, Dieu voit ce que tu es appelé à devenir. Toi, tu es là, tu te prends la tête avec le bébé qui pleure, mais tu ne sais pas que tu es en train de tenir le président de la République de ce pays entre tes mains. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, je suis là, je me regarde dans la glace. Avant, je me regardais dans la glace, et puis je déclarais des choses, et puis un jour, Dieu me dit, tu n'es pas ça, tu es pasteur. Je dis, non, Seigneur, pasteur, ce n'est pas pour moi. Non, laisse ça aux autres. Pasteur, oh, je vais aller à l'église, je vais m'asseoir, je peux faire la modération si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais pasteur, non, tu es pasteur. C'est ce que tu es, c'est à ça que je t'ai appelé. On va faire comment? Comme disait Gabonais. Amen. S'engager avec le Seigneur te propulse sur le chemin de ta destinée. Parce que le jour où tu t'engages, tu acceptes ton appel. Et le jour où tu acceptes ton appel, tu décolles. Parce qu'il n'y a plus rien qui est plus important pour toi que ton appel. Amen. Un jour, on aura une série d'enseignements sur comment découvrir son appel dans sa vie et entrer dans son appel. On aura un enseignement là-dessus parce que s'il y a bien un sujet qui, qui tracasse beaucoup de chrétiens, c'est le domaine de l'appel. Beaucoup ne savent pas. Ils sont là, ils disent, mais c'est quoi mon appel? Je suis appelé à quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'appel, c'est seulement être pasteur, docteur, apôtre, prophète, évangéliste. Non, ça ne se limite pas à ça. Il y a d'autres choses aussi. Dieu ne nous a pas tous appelés à être des pasteurs ou des prophètes ou des docteurs, etc. Parce que Dieu a ce qu'on appelle un gouvernement. Regarde, je vais te donner une image. Dans le gouvernement, notre gouvernement, est-ce qu'il n'y a que le ministère de l'Éducation nationale qui est important? Non. Un gouvernement, le chef du gouvernement établit ce qu'on appelle des ministres, d'accord, pour subvenir à tous les besoins dans la société. Il y a des besoins dans la santé, c'est pour ça qu'on a un ministère de la santé. Il y a des besoins au niveau de l'éducation, ministère de l'Éducation nationale. Il y a des besoins dans la musique, c'est pour ça qu'on a un ministère de la culture, là où il y a les arts, la musique, le théâtre, les livres, etc., les écrivains, etc., etc. On a des besoins dans la défense, c'est pour ça qu'il y a un ministère de la défense. On a des besoins, enfin, tout type de ministère, pour combler tous les besoins. Et les pasteurs, les prophètes, les docteurs, tous ces gens-là, ces cinq ministères qui sont décrits dans Éphésiens, là, eux, la Bible dit que ce sont des dons que Dieu a fait à qui? À l'Église. Pourquoi? Pour l'édification des saints, c'est-à-dire la formation, l'éducation, etc. C'est pour ça que les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, Dieu les a donnés à l'Église. Pourquoi? Il faut venir enseigner les chrétiens et qu'ensuite les chrétiens aillent dehors. Quand tu vas à l'école, ton but n'est pas de rester dans la salle de classe toute la vie. Non, tu écoutes les enseignements du professeur, tu grandis, tu passes ton examen, ton bac. Enfin, quand tu l'as, dommage pour ceux à qui hier au journal le président, ils iront pas, ils vont devoir repasser leur bac. Hein? Mais quand tu as tes examens en Christ, tu es censé après sortir et aller opérer en entreprise et te développer et devenir ce qu'on appelle un acteur économique. Parce que quand tu travailles, tu crées de la richesse, tu crées de l'argent pour le gouvernement. Mais c'est pour ça que l'histoire du chômage, là, c'est pas bon. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômage. Amen. Dans le royaume de Dieu, c'est travail à temps plein pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans le royaume de Dieu. Amen. Donc les pasteurs, tous ces gens-là, sont des enseignants attitrés au ministère de l'Éducation nationale du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement. Amen. Mais chacun d'entre nous, on a tous des appels dans d'autres domaines. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un appel dans la médecine. Tu vas d'abord commencer infirmier, d'accord? Mais tu es là, tu te dis, moi je vais rester toute ma vie infirmier. Dieu dit, tu ne vas pas rester infirmier. Tu commences infirmier. Après, tu vas devenir médecin. Après, tu vas découvrir une envie pour une spécialisation. Tu vas rentrer dans cette spécialisation, tu vas retenir peut-être encore à l'école, tu vas avoir tes diplômes, et tu vas devenir médecin spécialisé, je ne sais pas, chirurgien, etc. Et tu montes en puissance. Après, docteur d'un hôpital. Après, docteur de plusieurs hôpitaux dans une région. Et puis un jour, où monte ton bombard en ministre de la Santé. Voici ce à quoi Dieu t'a appelé. Et après, ministre de la Santé, tu penses que ça s'arrête là? Non. Après, tu peux être représentant à l'OMS. Et ainsi de suite, tu montes en puissance. C'est à ça que Dieu t'appelle. Ce n'est pas infirmier. Où est-ce que je vais dire ou pas? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, t'engager te propulse sur le chemin de ta destinée. Waouh, il faut que je finisse. Septième bénéfice du vrai engagement, c'est qu'il te protège des pièges du diable. Il te protège des pièges du diable. Pourquoi? Parce que lorsque l'on s'engage sincèrement à marcher avec le Seigneur, avec sincérité, on fait attention maintenant à sa vie. Le diable ne peut pas toucher les disciples. Les personnes que le diable touche, ce sont les personnes qui sont dans le péché. Celui qui n'est pas dans le péché, qui est sanctifié, mis à part pour le Seigneur, le diable ne peut pas le toucher. Le diable peut venir lui faire peur, l'oppresser peut-être, mais toucher à sa vie, Dieu ne peut pas permettre ça. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, au verset 9 à 10, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Je vais lire le même passage avec la version Parole vivante. Celui qui par la nouvelle naissance, dis avec moi la nouvelle naissance. Celui qui par la nouvelle naissance est devenu un enfant de Dieu ne peut s'adonner, ne s'adonne pas au péché. Car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable, dis avec moi incapable. Il est incapable de s'adonner au péché. Tu vois cette histoire que oh, je n'arrive pas à résister, je n'arrive pas à résister, je n'arrive pas à résister. Dieu dit, tu es incapable de t'adonner au péché, de prendre plaisir à ça. Puisqu'il est né de Dieu. Verset 10, il dit, c'est à ce signe que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître et qu'on peut les distinguer. Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Si tu veux savoir si quelqu'un est vraiment engagé avec le Seigneur, regarde sa vie par rapport au péché. Regarde sa vie. Quelqu'un qui joue avec le péché, qui est dans le péché et qui demeure dans le péché, la question de la nouvelle naissance lui est posée. Tu es vraiment né de nouveau? Tu es vraiment né de Dieu? La semence de vie habite vraiment en toi? Tu es vraiment né de Dieu? Parce que si tu es vraiment né de Dieu, tu ne peux pas t'adonner au péché. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre plaisir au péché. Si le péché entre dans la vie d'un enfant de Dieu, il éprouve des remords et des regrets. Il éprouve des remords et des regrets. Et il revient devant Dieu en disant, « Seigneur, délivre-moi de ça, pardon. » Ça, c'est la vraie attitude d'un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui est dans le péché, et puis ça ne lui fait rien. Il pêche, et puis c'est là où je me dis. Non, ça c'est, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Oui. Parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils font. Ils se suent la bouche, après ils viennent se dire, ça va? Non. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quelqu'un qui s'est engagé sincèrement à marcher avec le Seigneur a une certaine maturité spirituelle qui l'amène à ne pas pratiquer le péché. Il est mature. Il sait c'est quoi le péché. Même s'il ne comprend pas tout, il sait que l'histoire là, je ne peux pas toucher à ça. Parce que ma destinée peut être hypothéquée là. Il ne faut pas jouer avec le péché, les amis. Il ne faut pas jouer avec le péché. Tu peux rater ta destinée dans la vie à cause du péché. Tu peux rater des bénédictions que Dieu, des portes que Dieu veut t'ouvrir juste à cause du péché. Ça peut être une activité, ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être une mauvaise habitude que tu as, une convoitise, etc. Mais si tu ne laisses pas ça, tu peux passer à côté. Ce n'est pas genre il va t'arriver un accident ou bien genre tu vas mourir. Non. Tu peux même vivre toute ta vie normalement, mais tu ne sais pas qu'en fait tu es passé à côté. Et quand tu vas arriver au ciel, il y avait une histoire un jour que le pasteur Rick Warren, je lisais dans un de ses livres, il racontait. Et il disait, un jour un homme arriva au ciel. Et puis quelqu'un demande à un ange, mais quel a été le plus grand général d'armée de tous les temps? Et puis l'ange pointe le doigt vers un jeune homme en disant, c'est ce monsieur-là qui était censé être le plus grand général d'armée de tous les temps. Et puis le monsieur, c'était un monsieur, rien d'extraordinaire quoi. Et puis il dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être lui le général d'armée de tous les temps. L'ange dit, si c'est lui. Sauf qu'il est passé à côté. C'était ce à quoi il était destiné. Ne sois pas comme ce gars qui arrive au ciel. Quand il arrive au ciel, il vient devant le trône de Dieu. Oh Seigneur, merci, je suis sauvé. Oh merci. Et puis Dieu est là, si Dieu le regarde. Et à côté du trône de Dieu, il y a plein de trésors précieux. Plein de trésors, c'est magnifique, c'est beau. Et puis le gars dit, ah Seigneur, c'est magnifique, tout ça là. Seigneur, c'est pour qui? Dieu dit, mais c'est pour toi. Mais comment ça c'est pour moi? Mais c'est pour toi. Sauf que tu n'as jamais demandé, tu n'as jamais fait ce qu'il fallait pour avoir ça. Tu es passé à côté. Mais donc j'ai vécu toute la vie là sur terre pauvre, alors que tout ça c'était pour moi. Oui, c'était pour toi. Mais comme tu n'es pas entré dans ta destinée, tu as vécu toute ta vie pauvre. Vous connaissez l'histoire de celui qui, dont le bateau coule et puis se retrouve dans l'eau. Et puis il prie Dieu. Oh Dieu, sauve-moi. Dieu lui répond, je vais te sauver. Quelques heures plus tard, il y a un bateau qui arrive. Le bateau arrive. Monsieur, Tenez la bouée, on va vous sortir de là. Non, Dieu a dit, il vient me sauver. Le bateau s'en va. Un autre bateau vient. Monsieur, tenez la bouée. Non, Dieu a dit, il vient me sauver. Le deuxième bateau passe. Troisième bateau. Monsieur, on veut vous sauver. Pareil. Quatrième bateau. Monsieur, on veut vous sauver. Cinquième bateau. Pareil. Dieu vient me sauver. À la fin de la journée, le gars, il est mort noyé. Quand il arrive devant le trône, monsieur, tu as dit que tu devais me sauver, non? Dieu dit, imbécile, je t'ai envoyé 5 bateaux. Je t'ai envoyé 5 bateaux, tu n'as pas pris la bouée. Et puis tu viens encore me dire que je voulais... Oh, vraiment. Ne soyons pas stupides. Hein? Marchons vers notre destinée. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu tiendras ferme et que le diable ne te touchera pas. Au nom de Jésus-Christ. Et tu rentreras dans ta destinée. Huitième bénéfice, on va accélérer, on a fini. Huitième bénéfice d'un vrai engagement, c'est qu'il accélère ta croissance spirituelle. 1 Jean 5 au verset 3 nous dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et quand tu es en Christ et que tu t'es engagé à marcher avec le Seigneur, ta croissance spirituelle s'accélère, elle va beaucoup plus vite. Tu n'as pas remarqué que quand tu donnes sincèrement ta vie à Jésus et que tu décides d'attraper la main du Seigneur, il y a quelque chose qu'on appelle la grâce qui te donne une capacité à comprendre les choses que tu ne comprenais pas avant. La grâce t'ouvre les yeux. Tu ouvres la Bible, tu ne comprenais pas, maintenant tu comprends. Quand le pasteur est en train de parler, tu comprends ce que tu ne comprenais pas avant. Ça, c'est la grâce. Tu es en train de lire Matthieu comme ça, là. Mais quand Jésus-Christ dit, là où sera ton cœur, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand il dit des paroles comme ça, tu ne disais rien. Maintenant, tu comprends ce que ça veut dire. Ça, c'est la grâce. Parce que tout simplement, la grâce te fait grandir. Et la grâce a cette particularité. Quand tu t'approches de Dieu, quand Dieu parle, tu comprends. Quand, par exemple, quand tu n'es pas en Christ, tu peux entendre un pasteur parler à la télévision ou bien parler lors d'une croisade d'évangélisation. Tu ne comprends rien. Mais quand tu es en Christ, engagé, disciple de Jésus-Christ, quand l'évangéliste parle, tu es là, tu comprends tout ce qu'il dit, tu bois seulement ses paroles. Ça, c'est la grâce. Alors que le païen qui est à côté de toi, une fois, moi, j'ai assisté à un culte. J'étais dans une église, j'assistais à un culte. Les gens étaient juste en train de boire les paroles du pasteur. Tellement c'était deep. Et c'était profond parce que le pasteur était en train de donner des révélations. Et il y avait des gens qui étaient devant, qui étaient là, qui n'arrêtaient pas de rigoler. Ils rigolaient. Ils n'arrêtaient pas de mépriser ce que le pasteur disait. Et à la fin, le pasteur dit, mais les gens qui se moquaient de moi tout le temps, là, pendant tout le culte, c'est qui? Parce que vraiment, ils étaient vraiment à côté. Hein. C'est qui? On va dire, tu sais, c'est des gens bizarres qu'on a invités là, mais... Ils sont bizarres. Ils sont dans des choses bizarres. Donc, la parole était lancée, mais eux, ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas. Ça, c'est la puissance de la grâce. Amen. Enfin, avant-dernier bénéfice d'un véritable engagement, c'est que l'engagement contribue encore t'aide à libérer ton potentiel. Tout succès dans la vie commence par une décision. Dieu a déposé en nous des potentialités, des possibilités, des aptitudes, des talents, des dons. Mais tu les libéreras véritablement que le jour où tu attraperas la main du Seigneur. Il y a des choses que tu peux faire tout seul, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire tout seul. Il y a des choses où tu as besoin de Dieu pour t'aider, pour y arriver. Il y a des choses que tu ne peux pas faire tout seul. Dis avec moi le potentiel. Et la maturité spirituelle te permettra de connaître les clés divines qui t'aideront à libérer ton potentiel. Il y a des clés dans la vie que seul Dieu peut te donner par révélation. Il y a des clés que Dieu ne peut pas te donner si tu n'es pas en Christ. Jésus-Christ parlait devant les foules et il parlait en privé à ses disciples. Il y a des choses que Dieu te révélera dans le secret qu'il ne révèle pas à tout le monde sur ta vie. Amen. Et enfin, le dernier bénéfice d'un véritable engagement, c'est que le vrai engagement multiplie la grâce et la faveur divine sur ta vie. Multiplie. Dis avec moi, multiplie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 dit, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dis avec moi, multipliées. Il y a une grande différence entre le simple chrétien et le disciple. Le simple chrétien, il est né de nouveau. Il vient à l'église, tout ça. Voilà, il vit sa vie chrétienne normalement. Le disciple, il est différent parce que le disciple, c'est un missionnaire. Lui, il est sur le chantier. Lui, il travaille, il se considère en mission. Donc, lui, il a une grâce particulière. Il a une attention particulière du Seigneur. Parce que le Seigneur sait que lui, il est en travail. Celui qui ne travaille pas, qui est tout le temps assis. Dieu dit, bon, il n'y a pas de problème, lui. Mais celui qui est en travail, celui qui est en mission, celui qui s'expose au Seigneur, lui, Dieu accorde une particularité à lui. Tu n'as pas remarqué que toi, tu dois travailler toute ta vie pour payer ta retraite. Et que le militaire, lui, le jour où il devient militaire, sa retraite est assurée à vie. Tu n'as pas remarqué ça? Les militaires ont leur retraite assurée à vie. Ils ont même des primes pour leur famille. Et si un militaire meurt au combat, on prend soin de sa famille jusqu'à la fin de leur vie. Tu sais pas ça? Allez aux États-Unis, quand un soldat américain meurt, bon, je ne sais pas si c'est comme ça au Gabon. Ah Jésus, c'est bon. Quand un soldat américain meurt et qu'on vient, on amène le drapeau plié en triangle à son épouse et à ses enfants, votre mari est mort sur le champ de bataille. Sa femme et ses enfants sont pris en charge jusqu'à la fin de leur vie. C'est fort, hein? Ils n'ont même plus besoin de travailler. La grâce est multipliée pour ceux qui sont des disciples, ceux qui sont des missionnaires pour le Seigneur, ceux qui ont décidé de mourir pour Christ. Ceux-là, il y a une grâce particulière, une onction particulière sur leur vie. Amen. Éphésiens 6, 24 nous dit, et on va finir par là, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Inaltérable. C'est cette faveur-là qui nous permet d'entrer en possession de notre héritage en Christ. Ceux qui entrent en possession de leur héritage en Christ, ce sont les vrais disciples. Ceux qui ont choisi de rentrer, de prendre les grâces du royaume avec violence. De dire non Seigneur, on monte, on descend, on prospère dans cette vie. Les dons et les talents ne suffisent pas dans le royaume. Il te faut aussi la grâce. Et particulièrement la grâce multipliée. Et quand la grâce est multipliée dans ta vie, tu n'as pas remarqué qu'il y a des gens en Christ, tu ne comprends pas pourquoi, mais lui, il excelle. Il a une bénédiction, il a des grâces sur sa vie que tout le monde dit, mais comment il fait pour avoir de telles percées? Comment il fait pour avoir des portes? Moi, dans ma vie aujourd'hui, il y a des portes que Dieu m'a ouvertes. Je vous assure, il ne m'a pas ouvert ça parce qu'il m'aime bien. Il m'a ouvert ça parce que j'ai choisi de m'engager. Amen. Et je me considère en mission. Quand je suis sur le terrain, quels que soient les gens avec qui je suis, je me considère en mission. Et je dois briller. Amen. Je dois briller. Parce que je sais que ça va durer toute la vie. Ces opportunités de briller. Et quand je dis je brille là, ce n'est pas pour moi que je brille. Je veux briller pour Christ. Je veux que Christ soit révélé. Amen. C'est très important. Et ça, c'est l'attitude d'un vrai disciple. Éphésiens 4, 7 dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Selon quoi? Selon la mesure. Tout le monde n'a pas la même mesure. Hein? Tout le monde n'a pas la même mesure. Selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs ou encore des prisonniers. Et il a fait des dons aux hommes. » Il a fait des dons aux hommes. À qui? Les disciples, les gens qui se sont engagés, les gens qui... Il est monté au ciel en haut et il a emmené des prisonniers. Des prisonniers, pas des prisonniers, gens qui sont en prison. Des prisonniers de sa grâce. Des disciples. Le disciple, c'est celui qui est prisonnier de Christ, de l'amour de Christ. Il est esclave pour Christ. Sa vie ne lui appartient plus. Elle appartient à Christ. Et celui-là, les grâces lui sont multipliées. Amen. On va incliner la tête. Je voudrais maintenant que chacun puisse réfléchir, juste une ou deux minutes. Nous avons dit beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est l'engagement à la maturité spirituelle, l'engagement à suivre le Seigneur, l'engagement à faire sa volonté, l'engagement à l'honorer, l'engagement à refléter sa personne, sa gloire. C'est ce que le Seigneur attend de nous, qu'on grandisse, qu'on devienne mature spirituellement, qu'on porte du fruit, qu'on manifeste les dons, les talents par le Saint-Esprit, qu'on ait des vies qui l'honorent, qu'on ait des vies qui l'honorent. Et il dit, selon la mesure du don de Christ, la mesure du don veut dire qu'il ne donne pas à tout le monde de la même manière. Il donne à tout le monde, mais pas de la même manière. Il y en a à qui Dieu donne toujours un peu plus. Parce que ceux-là, ce sont des vrais disciples. Des personnes qui se sont engagées à vivre pour lui. Des personnes qui ont décidé de faire de leur vie un témoignage à la gloire de Dieu. Alléluia.
Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends
qu'il a payé. Apprendre de toi, nous engager à écouter, Seigneur, car tu es le bon berger, Père. Quand je l'entends, quand je t'entends, je comprends que tu as pour moi une destinée. Je comprends que tu as pour moi, Seigneur, un plan parfait. Si je me tais, oui, j'apprendrai, oui, à écouter la voix du bon berger. Je choisis de m'engager, Seigneur. Je choisis de revenir sur le chemin droit. Je choisis de faire ta volonté. Il a payé. Prenons l'engagement d'avoir des filles qui t'honorent. Que lorsque les hommes et les femmes nous regarderont, qu'ils puissent voir le témoignage de Christ, le témoignage parfait de Christ. À toi soit la gloire, à toi soit la louange pour ce que tu fais au travers de ta parole. Merci Seigneur pour mon frère et pour ma soeur à qui tu parles. Que chacun, Seigneur, puisse s'examiner lui-même et qu'à chacun tu puisses te révéler. Que chacun puisse connaître Dieu sincèrement dans sa vie et marcher, avancer et prospérer avec le Seigneur au nom de Jésus. Fais encore des choses extraordinaires, des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Car ce n'est qu'un commencement, ce n'est que le début d'une longue marche, d'une longue aventure avec toi, Père. À toi la gloire. Bénis encore nos maisons, bénis nos foyers, bénis nos enfants. Garde-nous loin, Seigneur, de ceux qui ne t'honorent pas. Et que nos vies, Seigneur, soient les vies de véritables amis de Dieu, Père. De véritables adorateurs, car c'est ce que tu demandes. Merci encore pour ce moment, pour ce culte que nous avons eu. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. À toi la gloire et la louange, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.